Salut les voisins, l'émission qui va suivre est une rediffusion, restez à l'écoute.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quelle histoire du vêtement ? Si le vêtement est un détail de l'histoire, il est aussi cette seconde peau qui accompagne les hommes et les femmes depuis le début de l'humanité. Nous allons en parler avec nos invités, Chloé Demey et Denis Bruna du Musée des Arts Décoratifs, tous deux historiens de l'art. Vous publiez une magistrale histoire des modes et du vêtement du Moyen-Âge au XXIe siècle. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Également dans le studio, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, rédactrice en chef du magazine Brune. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes bonjour aux voisins. Et voisines.
Eh bien, merci d'être avec nous. Vous êtes une très fine observatrice de la façon dont le continent africain s'empare des modes, en crée de nouvelles, et comment la rue aussi réécrit la mondialisation du vêtement. On est vraiment à une période charnière très intéressante. Et bien sûr, les voisins, vous pouvez poser toutes vos questions en direct à nos invités sur l'histoire du vêtement, si vous vous posez des questions sur l'origine de tel ou tel vêtement. 33 1 84 22 71 71. Et pour ceux qui pourraient nous reprocher notre frivolité à l'heure des gilets jaunes, cette petite phrase d'Honoré de Balzac, qui est d'ailleurs en ouverture de votre livre et qui éclaire notre sujet: l'homme qui ne voit que la mode dans la mode est un sot.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Chloé Demey, Denis Bruna, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, un cri de ralliement grâce à un vêtement, je pense évidemment aux gilets jaunes. Est-ce que ça a déjà existé par le passé ?
La veste Mao.
La veste Mao, oui, ça c'est vrai. Mais il y a eu, par exemple, beaucoup plus tôt dans l'histoire, par exemple, durant la Révolution française, il était de bon ton de marquer une rupture dès les années 89-90, notamment avec le vêtement aristocratique. Donc on est allé prendre, en quelque sorte, donc des modes très confidentiels, par exemple le pantalon, qui existait déjà pour les enfants de l'aristocratie, mais qui était très timide dans les modes à cette époque-là. Et précisément, le pantalon est devenu, pourrait-on dire, très à la mode parmi les révolutionnaires, parce qu'il marquait une rupture formelle avec les culottes que portaient les aristocrates, qui étaient courtes, qui s'arrêtaient aux genoux. Et donc, il y avait des bas, il y avait des souliers avec des boucles. Et l'idée était précisément de marquer une rupture en portant un pantalon long et qui est toujours dans la garde-robe masculine et féminine. Et,
donc, c'était un cri de ralliement du côté du peuple, sous-entendu, c'est ça ?
Oui, c'était un cri de ralliement, et puis il y avait aussi une manière de s'habiller, c'est-à-dire qu'on revendiquait de s'habiller de manière négligée, par exemple. L'idée était vraiment de marquer une rupture avec le vêtement très précieux, je dirais, avec des ornements, avec des dentelles, avec des couleurs. L'idée était précisément vraiment d'utiliser le vêtement pour s'affirmer et pour dire que nous entrons notamment dans une ère nouvelle.
Ouais, ouais. Et comment, tous les trois, des spécialistes de la mode et du vêtement, comment vous avez perçu ce gilet jaune qui devient incroyablement emblématique aujourd'hui ? Fallait y penser, hein, à le sortir de sa voiture.
Je trouve ça extraordinaire, parce qu'en fait, le gilet jaune, c'est, au départ, ça répond à une injonction de sécurité routière. On nous a tous obligés, dès qu'on avait une voiture, à avoir un gilet jaune. Et finalement, donc c'est quelque chose qui vient d'en haut, de l'État, et qui se retourne contre l'État, puisque ensuite, les gens se le sont appropriés. Il suffit de mettre un gilet jaune et on devient un gilet jaune. On enlève un gilet jaune, on n'est plus gilet jaune, donc en une minute, en 30 secondes, on acquiert une identité finalement. Et en fait, si on pourrait s'amuser à essayer de filer la métaphore et voir ce que dans le domaine du vêtement, tout ce qui s'en rapproche, retourner sa veste, par exemple, c'est la même chose. On retourne sa veste, on change d'idée. Et là, le gilet jaune, ben voilà, il incarne tout de suite une contestation.
Alors, je crois qu'on a oublié un petit peu l'histoire. Il y a quelques années, en Bretagne, il y a eu les bérets rouges. Mmh. C'était des manifestations, parfois, des manifestants, souvent extrémistes. qui ne portaient pas forcément le béret.
Alors qui ne revendiquaient pas la même chose.
Hein. Non, ils ne revendiquaient pas la même chose. En fait, ils ont quand même détruit énormément de choses, notamment tout ce qui était péage, enfin les péages qui devaient être en construction et tout ça.
Et qui protestaient contre l'installation de fameux portiques qui étaient taxants. Et oui. Donc, ils portaient des bonnets rouges en signe de protestation.
Oui, oui, oui. Ce n'étaient pas les bérets, c'était bonnets. Il y avait les bérets rêveur, je crois, pendant la guerre du Vietnam. Mais pour en revenir à ça, à ce vêtement qui est un peu démonstratif, le Zaïre, quand le Zaïre s'est créé avec le président Mobutu, ce qu'on appelait l'abacoste, c'est-à-dire, abacoste, ça voulait dire abat le costume. C'était une veste un petit peu mao, qui était obligatoire, donc le président Mobutu a imposé au moment où le Congo est devenu le Zaïre. Et c'était une zaïrification, c'est-à-dire que les prénoms changeaient, ils redevenaient des prénoms africains. On ne s'appelait plus Étienne, Sylvie ou Marie-Jeanne. On avait les prénoms africains qui revenaient. Et au niveau du vêtement, il a pris... en fait, le modèle de la bakos, c'était un petit peu un costume mao, un peu plus chic quand même.
Sans le fameux col du costume.
Sans le fameux col, mais avec un petit col droit et non pas le col du costume. Qui a été donc, et les gens, les Africains étant souvent des gens qui aiment bien détourner les choses, c'est devenu quelque chose de très 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 élégant. Et il y avait presque des concours de mode pour avoir le plus bel abacoste. Mais c'était aussi une forme de revendication d'une identité. Donc on était Zaïrois, on n'était plus Congolais, c'était plus le Congo belge, on était Zaïrois. Et l'abacoste était aussi cette revendication de même que le prénom, le retour au prénom donc autochtone était important aussi.
Alors la mode, c'est vrai que oui, je vous en prie,
Denis Brunard. Intéressant, par exemple, c'est la couleur. Vous évoquez par exemple les bonnets rouges et le rouge est une couleur révolutionnaire.
Oui,
on parlait il y a un instant notamment de la révolution. Il y avait bien sûr le pantalon, il y avait le négligé, le débraillé, mais il y avait aussi le bonnet phrygien qui était
bien
rouge.
Sûr.
Et ce qui est plus intéressant, me semble-t-il, c'est la couleur jaune des gilets jaunes, parce qu'on peut retracer avec quelques mots justement l'histoire du jaune. Le jaune a été, là j'en prends bien sûr aux écrits de Michel Pastoureau, le jaune est...
qui est le spécialiste de l'histoire,
des couleurs. Le jaune a toujours eu mauvaise presse. D'abord, ça a été la couleur de la trahison, et d'ailleurs dans la peinture au Moyen-Âge et à la Renaissance pour... reconnaître Judas le traître, il était notamment couvert d'un habit jaune. Le jaune est très rare dans la garde-robe occidentale, même par exemple au XVIIIe siècle, lorsque les hommes de l'aristocratie pouvaient porter des roses, des lilas, des rouges, des verts, des bleus ciel, etc. Le jaune est assez rare. Et ce qui est aussi intéressant...
Il faut dire aussi que ce n'est pas une couleur très saillante sur la peau blanche quand même, il faut reconnaître ce qui est...
Ça c'est très subjectif de votre part, chose comme ça. Moi personnellement, pour être très subjectif aussi, je ne partage pas votre idée, pour être encore plus subjectif, c'est l'une de mes couleurs que vraiment je préfère.
Oui, mais Marie-Jeanne porte aujourd'hui un pullover jaune moutarde,
je suis tout à fait d'accord.
Mais c'est le côté moutarde qui remonte.
Peut-être possible.
Je suis tout à fait d'accord que c'est une couleur qui est difficile à porter aujourd'hui, non pas parce qu'elle ne va pas très bien avec la peau, mais toujours est-il parce qu'elle a une mauvaise connotation. Par exemple, c'est aussi la couleur des maris trompés.
Des infidèles.
Il y a eu le gilet jaune, voilà, des infidèles. Il y a eu notamment d'abord le gilet jaune, c'était le jaune, la couleur de la signalisation. Mmh. Et ce même gilet, cette même couleur est devenue la couleur de la revendication.
Exactement.
Et de la contestation. Donc c'est très intéressant, je dirais, grosso modo, sur 6-7 siècles, de voir une couleur qui peut justement témoigner de symboles très divers.
C'est ça, au lieu de la signalisation, qui est quand même une couleur de l'ordre. Alors bon, on ne va pas faire non plus toute l'émission sur les gilets jaunes, mais quoique, hein, je vois bien que ça vous inspire énormément. Mais depuis le Moyen-Âge, Chloé Demey, quelles sont les grandes tendances pour habiller le corps, si on parcourait comme ça, juste en 2 minutes, dizaine de siècles?
C'est à peu près une question à laquelle il est impossible de répondre. Ce qui est frappant, en tout cas, quand on a travaillé comme nous sur la durée longue, donc sur 6 siècles, c'est le retour récurrent d'un certain nombre de tendances, notamment des modes nouvelles qui apparaissent, qui sont, au moment où elles apparaissent, souvent contestées. et puis qui sont reprises finalement à leur compte assez rapidement par une sorte de mode dominante. Et ces allers-retours, il y en a constamment, que ce soit au XVIIIe siècle, que ce soit au XXe siècle, il y en a absolument constamment. Une autre chose frappante, c'est la circulation des modes entre les différentes couches sociales. C'est-à-dire qu'une mode peut être lancée par l'aristocratie, puis reprise plus tard, par exemple, par la bourgeoisie, également par le fait qu'un vêtement, finalement, une fois qu'il est porté, est jugé par sa propriétaire un peu désuet, ouais. Elle le donne, et puis elle va le donner à quelqu'un qui peut être à son service, par exemple, sous l'Ancien Régime, et puis cette personne va à ce moment-là le porter, éventuellement le rapiécer, le remettre, et puis il va passer comme ça de couche en couche de la société, ouais. Et finalement, une robe qui était portée par une femme de la haute aristocratie peut se retrouver dans des couches beaucoup plus faibles de la société. Que décennies après.
Les vêtements coûtaient quand même très très cher à l'époque de la cour. Hein. Donc oui, on ne les jetait pas comme aujourd'hui.
Ah non, on ne les jetait pas, on les récupérait par exemple. C'est ce qui se passait notamment pour le roi et pour la reine, ne serait-ce qu'à la fin du XVIIIe siècle. Un vêtement, par exemple, Marie-Antoinette, tout son service de la garde-robe changeait 3 fois par an et lui procurait à chaque trimestre, tous les 4 mois, notamment 36 robes différentes, à la fois des robes de cour, des robes des robes quotidiennes et des robes pour les tenues beaucoup plus informelles. Et ensuite, ça reprenait une fois, la durée était terminée, donc ça reprenait le chemin inverse. C'était notamment la dame des atours de Nœud de la Reine qui reprenait tout, qui pouvait redistribuer les vêtements de la reine, très souvent les retailler. On revendait les tissus, on donnait les tissus dans les églises pour en faire des vêtements liturgiques pour les prêtres. Mais pour vous donner un exemple, nous avons quelques textes. On sait qu'un costume porté par un très grand prince dans les années 1780 pouvait coûter 15 000 livres. Alors 15 000 livres, ça ne nous dit rien. 15 000 livres, c'est-à-dire à la fois par les tissus les plus précieux, les soieries, mais les pierreries que l'on pouvait coudre aussi dessus. Mais 15 000 livres, ça représente le salaire pratiquement de 30 ans d'un ouvrier spécialisé à la même époque.
Oui, alors c'est-à-dire qu'évidemment, Vuitton aujourd'hui et Chanel, c'est rien à côté.
Rien, je ne sais pas, mais quand on regarde, par exemple, quand on parle aujourd'hui, pourrait-on dire de l'inconstance, voire de la folie, des modes. Oui, mais
oui,
je dirais
réel, mais qui a toujours existé.
L'inconstance est intrinsèque même à la mode, puisqu'une mode apparaît pour en chasser une autre.
C'est ça, parce
mais
que
les modes dominantes ont souvent été très très chères.
Et l'idée du luxe à l'époque, vous le montrez bien, au XVIe siècle, il y a des broderies dans les doublures des vêtements qui sont quasiment jamais visibles, sauf si on bouge, le corps bouge, et à ce moment-là, on va voir un tout petit peu de l'intérieur. Mais c'est-à-dire qu'on mettait énormément d'argent pour des choses totalement invisibles. C'est ça, c'était le suprême du raffinement.
C'était le suprême du raffinement, notamment pour la fourrure. Par exemple, la fourrure la plus chère à la fin du Moyen-Âge, c'était le ver. Et le ver, c'était un petit écureuil qui avait l'avantage d'avoir la peau du dos très foncée et le ventre clair. Et donc, on aimait beaucoup faire des fourrures en alternant ces deux couleurs. Et nous avons retrouvé dans les contes de la reine de France, Isabeau de Bavière, au XVe siècle, pour faire un manteau, il lui a fallu autour de 1500 vers, donc 1500 petits écureuils, ce qui est beaucoup. Et
affreux.
D'autant plus, c'est affreux.
Ben les
voilà,
véganes apprécieront.
Voilà, etc. Et d'autant plus que la fourrure à l'époque ne se montrait pas, parce que fourrer un vêtement, ça voulait dire à l'époque le doubler. Et donc la fourrure était obligatoirement à l'intérieur. Et progressivement, la fourrure s'est échappée au niveau des cols, au niveau des revers de manches, pour devenir ensuite, pour recouvrir et pour être tout à fait visible. Ça a commencé à se faire autour du 16e, 17e siècle, ce qui a été vu comme un scandale, non pas à l'égard de la protection animale, mais que l'homme redevenait une bête en montrant, des poils.
Alors, on parlait de la mode comme contestation sociale avec les gilets jaunes. Dans quelques instants, on va bien sûr aussi parler de cette mode excentrique, provocante, qui rentre finalement dans les mœurs. Et on peut découvrir d'ailleurs, grâce à vous, que les baggies avec le pantalon baissé sur les fesses a quelques ancêtres. On en discute juste après. Mutoni Drummer Queen.
money maker. Oh yeah, ladies, now move your money maker. Move your money maker, girl, move your money maker. He don't mind that I come with some extra fold. He just smiles, say he got him some extra hold. Plus it's keeping him warm while it's extra cold. Gotta keep them with the ladies, I am extra sold.
C'est Lover chez 7 milliards de voisins sur RFI. On s'intéresse à l'histoire du vêtement aujourd'hui avec des historiens d'art qui publient l'histoire des modes et du vêtement aux éditions textuelles. Marie-Jeanne Serbin-Thomas est également avec nous, avec Denis Bruna et Chloé Demey, nos historiens de l'art. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler pour nous poser des questions sur l'origine des vêtements. On parlait de ces dépenses somptuaires que vous nous racontiez, Denis Bruna, il y a plusieurs siècles et qui évidemment fait écho avec cette industrie du luxe aujourd'hui qui pratique des prix relativement déraisonnables mais somme toute acceptables par rapport aux chiffres que vous nous donniez. Bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Je voudrais lire le message d'un voisin au Congo. Denis Athanase à Pointe-Noire nous dit que la mode est un système pour faire vivre les affaires, le marketing, les magasins. Ne se laissent avoir que ceux qui n'ont pas les pieds sur terre. Pour le reste, pantalon, chemise, costume, robe, jupe, chacun choisit ce qui lui va le mieux. L'élégance n'a rien à voir avec la mode. Porte ce qui te va le mieux et ce qui te va le mieux n'est pas forcément à la mode. Voilà un sage commentaire. Vous êtes d'accord avec ça, je suis sûre, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, non ?
Oui et non. Je dirais chacun peut faire sa mode. Aujourd'hui, la mode, c'était vraiment on est dans un principe de démocratisation. Tout à l'heure, on parlait d'harmonie et aujourd'hui, même la disharmonie est une mode. Ce qui nous paraissait absolument incroyable il y a 10 ans, qu'on n'aurait jamais fait, par exemple mettre des pois et des carreaux, ça se faisait pas. Ben aujourd'hui, c'est courant avec le pagne, par exemple. Maintenant, on met du pagne avec du tartan. Il y a des mélanges
exactement.
Comme ça.
Et même le jaune a gagné ses lettres de noblesse
et
en
même,
Europe.
Et même le jaune, en fait, le jaune, là, il y a une marque de pagne qui vient de sortir un jaune, mais vraiment, on peut le voir à des kilomètres et ça marche très, très bien. Donc, ce que je veux dire, c'est dire que la mode, c'est une histoire de marketing, c'est faux. D'abord, la mode, le vêtement sert à s'habiller, c'est-à-dire ne pas se promener nu, c'est-à-dire c'est une forme de socialisation. Et puis la quête du beau n'est pas forcément quelque chose de négatif. On peut être très beau avec des vêtements achetés au marché, avec très peu de choses, avec des classiques et tout ça. Donc je pense que le débat n'est pas de dire d'un côté il y a ceux qui peuvent s'habiller parce qu'ils ont de l'argent et puis les autres. Aujourd'hui la mode s'inspire tellement de la rue, c'est-à-dire des gens qui vont à pied, que c'est une réalité.
On posera ensuite la question à nos historiens. Je voudrais qu'on donne la parole à un auditeur qui nous appelle Soumi et Tabamako. Bonjour Soumi.
Bonjour Emma.
Soumi, soyez le bienvenu. Vous êtes chez 7 milliards de voisins parce que vous avez une question à poser sur les couleurs.
Oui, effectivement, moi je suis amateur, je m'intéresse beaucoup à la mode.
Ouais.
C'est pas l'histoire cette fois-ci, c'est par rapport à l'harmonie dont a fait allusion à votre invité.
Ouais.
Je me pose la question de savoir, imaginez comment on fait l'harmonisation, c'est-à-dire par rapport aux couleurs. Si je prends par exemple un costume de couleur sombre, une chemise blanche, quelle va être la couleur de cravate qui va avec, la couleur des chaussettes, des chaussures, tout ça.
Ouais.
Comment se fait cet agencement-là sur le plan?
Alors, oui, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il y a une harmonisation des couleurs universelle, je dirais quasi scientifique, ou pas? Ou est-ce que cette harmonisation, ce qui est censé être bien harmonisé, a énormément évolué, hein? Je pense que c'est ça aussi que vous avez envie de savoir, et puis vous avez envie d'avoir des conseils pour bien vous habiller, hein? Je crois que... Bon, Soumi, qu'est-ce que vous pouvez répondre, Marie-Jeanne, à Soumi?
Moi, je dirais véritablement que il faut porter ce qui nous plaît et ne pas forcément vouloir ressembler à la mode pingouin. Quand on prend un costume, c'est forcément un costume sombre. Ce matin, je prenais les transports en commun et je peux vous dire que 90% des hommes ressemblaient à des pingouins, c'est-à-dire manteau noir, chemise noire, pull noir, et je rêvais de voir du rouge. Ouais. Et moi qui avais
bien qu'on se demande si le costume cravate disparaîtra peut-être un jour. Hein.
Alors,
qui commence à se poser.
Il tend à disparaître dans certains milieux, mais il y a des milieux très conventionnels qui le chérissent. Mais pour en revenir à la question de notre ami de Bamako, moi je pense qu'il faut utiliser des couleurs, il faut utiliser des choses dans lesquelles on se sent à l'aise. Si vous vous sentez à l'aise avec un costume noir et puis une chemise blanche, pourquoi ne pas avoir un petit coup de peps comme ça, avec une cravate qui déchire, comme on dit, avec quelque chose de sympa, avec des chaussures, avec des chaussettes très drôles, qui peuvent signer finalement votre allure, plutôt que de vouloir ressembler à tout le monde. Mmh. Et c'est ça, moi je dis, c'est cette liberté, bon, en fonction de votre emploi aussi, du milieu dans lequel vous évoluez, il y a des choses...
Vous êtes quel style, Soumis, du fait de votre personnalité, de votre métier, je ne sais pas.
C'est important aussi de savoir.
Soumis. Il y a ces paramètres, mais il y a aussi le regard des autres. C'est-à-dire que souvent on s'habille pour soi, mais on s'habille aussi pour les autres.
Ah bah bien sûr.
Voilà. Ouais. Ah bah oui, c'est important.
Il y a des codes.
Ouais. Et vous faites quoi dans la vie, Soumis?
Je travaille dans le domaine de la santé.
D'accord. Donc vous êtes un fonctionnaire. D'accord, donc d'où la question sur le costume.
Mais vous pouvez aussi porter un costume avec une chemise pagne, ça peut être très très élégant si la chemise est bien faite. On n'est pas obligé de porter du noir et blanc, vous pouvez porter du rose, un rose pâle, ça peut être très joli aussi.
Ce qui compte, c'est le soin, hein, finalement. Voilà,
ce qui compte, c'est le soin, et puis surtout se sentir bien, c'est-à-dire se sentir beau, se sentir à l'aise et conquérant. Si un vêtement vous rabaisse un petit peu parce que vous êtes trop dans la masse, eh ben, votre identité ne va jamais apparaître. Moi, j'adore faire des compliments aux hommes en disant « Oh, vous êtes très chic, vous êtes très beau » et tout ça. Ils sont toujours étonnés. Vous avez un très joli sourire. Alors, c'est pas de la drague, c'est justement de dire « Vous avez pris soin de vous et ça se voit. »
Et on peut être dans le code en apportant sa personnalité pour se détacher des autres. C'est ça. Merci Soumis de nous avoir appelés. Très bonne journée à
et
Bamako.
Libérez-vous.
Tout en étant dans le code.
Ce qui est intéressant dans ces codes, c'est qu'ils sont le résultat d'une histoire. Alors on peut s'en décider, s'en affranchir, effectivement, mais c'est intéressant de savoir d'où ils viennent, ne serait-ce que pour décider de les envoyer balader. Mmh. Et ce que vous appelez le code pingouin, enfin, ces hommes qu'on voit habillés en noir, en blanc, des costumes sombres, ça remonte probablement au XVIe siècle, en fait, à la cour des ducs de Bourgogne. Le noir est devenu la couleur du chic. Mmh. Et donc, la couleur du chic, elle a ensuite traversé les siècles.
Il y a eu évidemment. Les percepteurs des impôts, tout ça. Donc...
Un peu plus tard.
Les banquiers,
oui, ça c'est vrai.
Les banquiers, surtout.
La question sur l'harmonisation des couleurs, ça a toujours été une quête, ça, pour nous tous dans l'histoire de l'humanité.
Je pense qu'on se posait beaucoup moins de questions sur les couleurs autrefois, en tout cas pour les hommes, par exemple, il était de bon ton de partager exactement ou à quelques différences près dans les motifs, mais en tout cas dans les couleurs, les mêmes étoffes. Je parle notamment de l'aristocratie et notamment de la noblesse au XVIIe et XVIIIe siècle entre les femmes et les hommes. Les hommes portaient des soieries avec des fleurs, des motifs, des dentelles, des paillettes, des broderies. Et progressivement, il y a eu un phénomène qui a plutôt touché les femmes en disant ce domaine de la mode, du vêtement, des couleurs, de l'apparence touche beaucoup plus les femmes, et progressivement les hommes se sont écartés précisément donc de ces étoffes et de ces ornementations. Ça s'est passé à la fin du XVIIIe siècle, et très souvent on dit ça y est, l'élégance masculine n'existe plus, et c'est ce qu'on a voulu corriger aussi dans le livre. On dit non, c'est qu'il y a eu un déplacement de l'élégance, et que l'élégance masculine ne s'exprimait plus à travers les couleurs et les ornementations, mais que désormais elle s'exprimait à travers la coupe. Et l'idée du costume masculin bien taillé, bien coupé, date de la fin du XVIIIe siècle, et ce qui a donné naissance au long du XIXe et du XXe siècle, tous ces tailleurs renommés à Paris, à Londres, bien sûr, la grande tradition d'aller se faire tailler un costume.
Savile Row,
de se faire tailler un costume. Mais cette idée d'aller rechercher l'élégance dans la coupe parfaite qui va comme un gant, je dirais, date de la fin du XVIIIe siècle, précisément au moment où les couleurs ont disparu de la garde-robe des hommes.
C'est-à-dire qu'on est quand même entré dans la sobriété si on regarde comparé à la cour de Henri III, où on est dans un délire total de broderie, de choses qui brillent, de culottes culotte bouffante qui laisse d'ailleurs complètement apparaître les jambes, hein, la cuisse.
Oui, mais la sobriété, en effet, mais je dirais le refuge, on va dire, de la couleur et pourrait-on dire de la fantaisie, c'est ce que Marie-Jeanne a dit tout à l'heure, c'est la cravate. La cravate, aujourd'hui, peut être le refuge, peut-être le seul refuge de la fantaisie qui nous rappelle un petit peu qu'il y a environ 200-300 ans, les hommes pouvaient oser porter beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui des motifs avec des couleurs.
Refuge, quand même, comme vous y allez, parce que quand même, aujourd'hui, on a les baggies qui vivent pantalons baissés sur les fesses. Et d'ailleurs, ces petites provocations-là qui laissent apparaître le sous-vêtement, hein, finalement, souvent d'ailleurs de couleurs très, très vives, et qui peut apparaître quand même un peu pour les garçons où on a toujours l'impression qu'ils vont perdre leurs pantalons, quoi, hein, grosso modo, quand ils marchent. Mais finalement, ça a des origines dans l'histoire de la mode, les fameux baggies.
Oui, et en travaillant sur les sources, nous avons retrouvé dans des témoignages, notamment du 15e siècle, qu'il y avait des adolescents dans les rues, notamment des grandes villes de France, qu'on appelait les bragards. Et les bragards, le mot vient de bray, c'est-à-dire la culotte. Et c'était donc des jeunes hommes qui aimaient, par provocation, baisser leurs chausses, c'est-à-dire notamment les longs bas qui recouvraient les jambes. Et donc, ils baissaient leurs chausses pour montrer le sous-vêtement. Donc, voilà, je dirais nos fameux...
Donc, la chausse tire bouchonné au bas de la jambe.
Oui, non, c'est-à-dire que le tir bouchonnait pas, mais donc c'est-à-dire qu'on mettait notamment la jarretière un petit peu plus bas, ce qui fait que par conséquent, justement, les chausses étaient tombantes et on pouvait voir dans le sous-vêtement la braie, donc la culotte, et ils aimaient comme ça se promener en plus en soulevant la chemise pour vraiment montrer entre guillemets leur slip. Et voilà, c'est tout ce qu'on a vu dans autour des années 90.
Au 15e siècle,
vers 1470.
Ouais. Et donc, mais en fait, l'origine des baggies en fait contemporaine est beaucoup plus humiliante parce que c'est une mode qui vient des États-Unis et dans les prisons américaines pour humilier donc les prisonniers, on leur donnait des tenues sans ceinture. Ça veut dire qu'ils étaient obligés de tenir leurs pantalons en permanence. C'est une forme d'humiliation. En plus, c'était dans des couleurs très claires, donc dans des oranges et choses comme ça. Et cette mode est venue donc dans la rue. Et il y a même des pasteurs noirs américains qui se sont insurgés contre cette mode en disant « Mais vous vous rendez pas compte, vous récupérez un symbole d'humiliation pour en faire finalement une mode. » Et cette mode a été pendant longtemps décriée. Maintenant, les gens... au nom de certains principes, n'osent plus s'en moquer. Mais c'est vrai que quand on voit certains garçons marcher avec ses pantalons, on se dit, mais à quel moment le pantalon va tomber? C'est devenu une prouesse aussi technique. Mais au départ, c'était quand même une forme d'humiliation pour...
Mode est un éternel recommencement, finalement. C'est des exemples comme ça, vous en avez plein, même si les motivations changent.
Un autre exemple, moi, auquel me fait penser ce que vient de dire Marie-Jeanne, c'est un autre exemple d'humiliation du côté féminin, finalement, peut-être inconscient et pas si volontaire que ça. C'est cette mode qui a été assez courte, mais qui est la mode des entravés. Au début du XXe siècle, dans les années 10, il y a eu une mode pour laquelle les femmes donc, avaient des jupes longues, mais qui étaient extrêmement serrées jusqu'au niveau des genoux, tellement serrée qu'elle pouvait à peine faire un pas normal, elle était obligée de marcher à tout petit pas. Et il est arrivé,
c'était des jupes longues, hein, des jupes 1910,
très... oui, des jupes longues et très serrées en bas. Et du coup, on pouvait vraiment, c'était très difficile de marcher avec. Et il a même été organisé par des hommes des courses de femmes en jupe entravée. On reproduit dans notre livre une image dans un journal, ce qu'on dirait aujourd'hui une photo, en fait c'est un dessin mais qui était pris sur le vif, d'une course de ces femmes avec ces jupes longues, on dirait une course en sac en fait.
Et les femmes acceptaient ?
Et les femmes couraient. C'est quand même extraordinaire.
Et comment on avait pu imposer un tel truc aux femmes? Bon, il y a eu le corset aussi. Hein. Alors, qui a imposé le fameux corset? Est-ce que les femmes se le sont imposées d'elles-mêmes, qui empêchaient de respirer?
Vous savez, le corset a une très très longue histoire et le corset, c'est-à-dire le corsage est très serré avec des baleines qui permettaient d'avoir, comme on disait à l'époque, belle taille et gorge haute, existe au moins depuis le 15e siècle. Alors bien sûr, les grandes heures du corset, c'est le 19e, mais dire qu'on a imposé, le corset aux femmes, dire que ça a empêché de respirer, c'est sans doute vrai. Mais quand on regarde, par exemple, toutes les femmes, à cette époque-là, voulaient en porter un parce que ça permettait d'avoir la silhouette qui était imposée par le temps et je dirais...
Et la classe sociale.
Et la classe sociale aussi.
Tout le monde portait
pas de corset. Si, tout le monde, je dirais, en portait. Alors, on avait des corsets plus ou moins contraignants en fonction des activités, en fonction des métiers.
Dans des pays où la majorité des gens travaillaient la terre, on pouvait travailler la terre avec un corset ?
On pouvait avoir un corsage très serré, on pouvait avoir un corset, je dirais, qui était beaucoup moins contraignant que notamment les corsets que l'on portait dans la grande bourgeoisie à cette époque. Mais, je dirais, en tout cas, par exemple, même dans les classes sociales, par exemple, les plus modestes, il y avait bien sûr la grande tradition qui existait encore durant tout le XXe siècle des habits du dimanche, et le dimanche, on mettait un corset beaucoup plus serré, ne serait-ce que pour aller à la messe.
On donne la parole à un auditeur qui veut vous questionner sur l'origine de certaines modes. Dans quelques instants, Roosevelt nous appelle. Je vous redonne notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On va faire du boum
sur RFI.
Du show.
Ça m'a appris la fraternité. Découvrir d'autres cultures, aller vers l'inconnu.
Tu rates, tu meurs. Mille regrets aux absents.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
7 milliards de voisins, on parle de l'histoire du vêtement avec nos invités. Roosevelt nous appelle du Bénin. Non, il veut que je vais lire sa question, on l'a pas en ligne. Il vous pose la question suivante, donc il est béninois. D'où vient la mode des jeans déchirés, les jeans destroy ? La mode du vêtement déchiré. Qui veut répondre ? Denis Brunet ?
Je veux bien en parler. Alors, la mode du jean déchiré, c'est autour des années 70, fin des années 60-70. C'était d'abord par les punks qui achetaient d'abord des vêtements dans les fripes pour des raisons économiques. Il y a eu ensuite, pourrait-on dire, une esthétique punk. D'abord, ça a été beaucoup récupéré. Beaucoup, après, surtout des adolescents se sont mis notamment à déchirer volontairement leurs jeans. Et par signe de contestation, c'était plutôt une mode qui a touché la jeunesse. On a vu ça encore récemment. Aujourd'hui, on peut même acheter son jean déjà déchiré.
Oui, Des vêtements déchirés.
Oui, oui. Mais maintenant,
déchirés en usine, hein, on est bien
déchirés
d'accord.
Déchirés en usine et avec notamment des machines particulières, voire aussi des artisans justement spécialisés, notamment dans l'usure du vêtement, également.
Ouais.
Voilà.
Allez, le pays spécialiste de la déchirure du jean,
c'est l'Italie. Par exemple, vous pouvez très bien, si vous regardez attentivement sur l'étiquette de vos jeans, beaucoup, notamment des jeans que l'on peut acheter, par exemple, en France, sont fabriqués en Afrique du Nord et ensuite ils sont envoyés notamment dans des usines spécialisées notamment en Italie pour notamment les user et les déchirer. Mais ce qui est très intéressant, et là c'est l'historien je dirais qui parle encore, à savoir qu'au 15e, 16e siècle, quand il y a eu déjà la première mode du déchiré, c'était les ateliers italiens qui étaient les plus spécialisés.
Et à la Renaissance, il y avait déjà une mode du vêtement déchiré.
Oui, il y avait notamment des ouvriers spécialisés chez les tailleurs, dans les ateliers.
Qui avait envie de se montrer avec des vêtements déchirés à la Renaissance ?
C'était un signe de haute naissance, parce que vu que le tissu coûtait cher, ceux qui pouvaient précisément les déchirer étaient vraiment les personnes qui étaient les plus riches. Et donc, il y avait des artisans qui, notamment, faisaient ce qu'on appelait notamment des déchiquetailles, ou alors des frappes, c'est-à-dire qui se servaient notamment de fer avec donc des rasoirs et à l'emporte-pièce pouvait précisément donc déchirer et ensuite faire des motifs, des vaguelettes, voilà. En tout cas, la mode du déchiré. Mais très sévèrement critiqué par les pouvoirs civils, par l'église. On trouvait ça inconvenant parce qu'on pouvait voir le vêtement de dessous, toujours, parfois la peau, mais aussi déchirer le vêtement quand on sait précisément que le tissu, surtout dans ces temps-là, était vraiment un produit de luxe, était considéré comme gaspillage.
Quand on vous dit quand même que la mode est un éternel recommencement, hein, c'est encore plus que ce qu'on imaginait. Une auditrice nous appelle, Ndoya de Dakar au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Ndoya.
Bonjour Emmanuel, comment vous allez ?
Très bien, et vous-même, ça va Ndoya ?
Ça va bien, merci. Bonjour à vos invités.
Vous êtes dans l'une des capitales, je dis bien l'une, je ne voudrais pas me fâcher avec les autres voisins, dans l'une des capitales de la mode sur le continent africain, où les femmes sont particulièrement élégantes. Vous avez des questions à poser ?
Élégantes, oui.
Ouais, vous avez des questions à poser à nos invités.
Avant tout, je voulais juste vous dire que le fait de suivre la mode et d'être vraiment élégant, c'est deux choses diamétralement opposées, parce qu'on peut avoir vraiment un dressing vraiment impressionnant Alors pourtant, on a construit, on ne fait rien du tout. Deuxièmement, la question, je voulais savoir d'où vient la mode avec les pantalons 7/8e.
Les pantalons 7/8e.
Qu'on a l'habitude de. Oui. Ouais. Et aussi les blazers pour les dames. Parce que c'est mon style en fait. J'en raffole. Quand je vois ça, c'est vraiment élégant et vraiment, je me demande quelle est la personne qui a créé ça.
Alors, deux choses. Donc d'abord, le pantalon 7/8e, Marie-Jeanne, petite explication de texte, qu'est-ce que c'est?
Alors, un pantalon 7/8e, c'est un pantalon qui n'est pas tout à fait long, qui s'arrête à peu près à...
mi-mollet, c'est ça?
Oui, voilà, en fait,
au-dessus de la cheville.
Voilà. Alors, ce sont des pantalons qui sont souvent inspirés de pantalons professionnels, notamment des gens qui travaillent dans la marine, des marins, qui avaient l'habitude de retrousser leurs pantalons.
Oui, restez bien devant le micro.
Et à force de retrousser
sa chemise, sa cheville plutôt, Marie-Jeanne. Oui.
Je croyais qu'on faisait de la télé aussi, Emmanuel. Donc, et à force de retrousser leurs pantalons, en fait, finalement, ils ont été coupés. Donc, ce sont vraiment des pantalons professionnels. Et la veste, il faut remercier Madame Coco Chanel, qui, dès le début du XXe siècle, à partir des années 20-30, quand elle a commencé à se lancer dans la mode, les premiers vêtements qu'elle a fait pour femmes, d'abord, ce sont des vêtements qui ont libéré le corps de la femme, où il y avait moins de contraintes, comme des corsets, des choses comme ça. Et elle a commencé à prendre des costumes masculins qu'elle a féminisés. Et il y a une très belle photo d'elle d'ailleurs où elle est avec un t-shirt et avec un costume masculin, avec un pantalon Prince de Galles avec un revers. Et c'est à ce moment-là. Mais avant, les femmes avaient des espèces de redingotes, souvent pour l'hiver, qui étaient plus longues. Mais la veste, véritablement, on peut dire que c'est les gens comme Coco Chanel et Jean Poiret qui les ont inventées. Et ce sont des vêtements tout à fait modernes du XXe siècle.
Chloé Demey, Denis Brunat, vous êtes d'accord avec ça? Des choses à ajouter.
En tout cas, le fait que les femmes s'emparent d'un certain nombre de pièces du vêtement masculin, c'est effectivement un phénomène qu'on a vu régulièrement tout au long du siècle, tout au long des siècles, à vrai dire, puisque le pantalon aussi est devenu un vêtement féminin au cours du XXe siècle.
Le pantalon pour les femmes, on peut redire, ça apparaît à quel moment exactement?
Dans les années 20.
Oui, c'est ça. C'est vraiment Chanel qui a...
Après la Première Guerre mondiale.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle un petit peu les années folles. Au moment des années folles, elle a lancé des pantalons pour... ça n'a pas été une mode tout de suite, mais après, c'est devenu des musts.
Doya, je pense qu'on a répondu à votre question. Jean veut poser une question. Alors, il est au Togo. Je voudrais savoir à quand remonte le pagne et le poids qu'il a dans le monde aujourd'hui.
Marie-Jeanne. Alors, qu'est-ce que vous appelez le pagne? Est-ce que c'est le tissu wax, c'est-à-dire l'impression batique qui est originaire d'Indonésie et qui a été importé par les Hollandais, si vous appelez ça le pagne? Ça date fin 19e siècle. D'accord? Sinon, le pagne, c'est-à-dire, ce qu'on appelle un pagne, c'est un bout de tissu qui doit faire à peu près 2 mètres de large sur 1 mètre, 2 mètres de long sur 1 mètre de large. C'est une tradition, c'était la taille en fait des pagnes tissés traditionnellement par les tisserands. C'était des petits bouts qu'ils mettaient l'un à côté des autres pour couvrir le corps et qui servaient à plein de choses, non seulement à se couvrir, mais aussi à se protéger du soleil, mais aussi à porter les enfants, au dos, donc on s'attachait avec le pagne. Donc pour moi, le pagne, c'est vraiment le pagne traditionnel, le pagne tissé. Après, il y a le coton wax, donc qui est inspiré donc, de ce qui se faisait en Indonésie et qui date des années 1850.
Ouais, et qui prête lieu évidemment aujourd'hui à débat sur le wax comme identité culturelle du continent africain, qui évidemment n'en est pas une, mais en même temps, comme les Africains s'en sont emparés, l'ont réécrit aussi dans ses codes culturels. Bon, c'est un débat qui n'en finit pas et on l'aborde régulièrement dans cette émission avec vous, Marie-Jeanne. Est-ce que les innovations technologiques, parce qu'on découvre dans votre livre que les matières qui sont utilisées il y a plusieurs siècles, Chloé Demey et Denis Brunat, il y a du lin, il y a du coton, il y a de la soie, il y a de la laine, il y a du cuir, ça n'a pas tellement changé finalement. Si ce n'est que depuis quelques années, on a des innovations technologiques dans les matériaux, mais toutes ces matières-là, on les porte encore aujourd'hui. Hein. Elles sont encore, à part la soie qui reste une matière relativement chère, encore que, mais sinon, elles sont relativement abordables. Est-ce que les innovations technologiques qu'on a depuis quelques années changent déjà maintenant l'histoire du vêtement et de la mode? Je pense en particulier au caoutchouc, aux matériaux plastiques, à la basket, évidemment, Chloé Demey.
Alors, c'est effectivement essentiellement dans les tissus, jusqu'à ces toutes dernières années que les innovations technologiques ont marqué le vêtement. Évidemment, l'apparition des fibres artificielles comme la rayonne, puis les tissus tous les tissus synthétiques, en fait, qui ont commencé dès le début du XXe siècle,
mais qui sont
très, très polluantes, mais qui sont évidemment explosées dans la deuxième moitié du XXe siècle. Tout ça a changé les formes, ouais. Les coupes.
Et pour les baskets, si on n'avait pas innové technologiquement, on ne pourrait pas les fabriquer. C'est clair.
Vous savez, l'histoire du basket est quand même très très longue. Il faut savoir que lorsqu'on faisait notamment du sport, par exemple au 19e siècle, lorsque le sport est devenu à la mode, par exemple pour courir, notamment pour faire des randonnées, de l'alpinisme et notamment pour le tennis, les femmes de la bonne bourgeoisie qui voulaient jouer au tennis gardaient exactement les mêmes robes qu'elles portaient dans la rue. Parfois, on utilisait plutôt des cotons qui étaient beaucoup plus léger, mais on gardait le corset dessous. C'était un corset plus léger, mais il fallait toujours avoir la taille fine. On mettait une tournure au niveau de la taille, ce qu'on appelle le faux cul. Et on avait notamment des chaussures pour jouer au tennis qui avait un talon de 7 cm de haut.
Ah oui.
Alors, on avait abandonné les chaussures de cuir, mais la forme était exactement la même et on avait mis plutôt de la toile, mais le talon était toujours là.
On revient de loin quand même.
On revient de très très loin.
Avec un talon
mais
de 7
ce
cm.
Qui est très intéressant, c'est que par justement le goût du sport dès la fin du 19e siècle, il y a eu des entreprises, il y a eu des inventeurs qui ont essayé de trouver le confort dans la chaussure, toutes ces technologies. Et quand on voit par exemple toutes les baskets, les sneakers comme on les appelle, où on utilise des matériaux les plus innovants, il y a eu l'invention du coussin d'air, des tissus élastiques, il y a eu notamment également des coussins d'air qu'on pouvait gonfler. Donc toute l'idée, je pense, du confort de la chaussure vient notamment de l'histoire de la chaussure de sport.
Pour revenir aux matériaux, en fait, ça passe beaucoup par le sport, toutes ces innovations. Par exemple, le maillot de bain qu'on voit, qui était avec de la maille, avec du coton, de la laine avant la guerre, évidemment, a complètement, et jusqu'à après la guerre, a complètement changé de forme grâce à l'emploi de ces nouveaux matériaux.
Alors, il faut qu'on parle aujourd'hui quand même de la préoccupation environnementale dans la mode, parce qu'elle est probablement en train de tout bouleverser. Les Européens consomment jusqu'à maintenant 4 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans. 30% de ce qui est produit n'est jamais porté, voire même jamais vendu. Pour fabriquer un jean, il faut entre 7000 et 10 000 litres d'eau. Ça y est, on commence à le savoir. Ça commence à être dit, à être documenté. Et en même temps, ça y est, la consommation commence à baisser. Depuis 10 ans, on a une baisse d'achat de vêtements neufs en France. Des études de l'Institut français de la mode disent que 44% des consommateurs assurent avoir délibérément moins dépensé pour acheter mieux, par souci éthique, par souci écologique. Les Américains disent aussi ne plus tellement s'intéresser aux vêtements, ne plus tellement avoir envie d'acheter des vêtements. Est-ce qu'on est arrivé à un niveau où, je dirais pas qu'on n'a plus envie de s'habiller, mais on est arrivé à plus soif, quoi, juste plus soif du consommateur, ou vous semblez sceptique, Chloé Demey.
Je pense que ce qu'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire ce sont ces grandes entreprises qui produisent à un rythme tellement important qu'avant, on faisait, les grandes maisons faisaient à peu près 2 à 3 collections par an. Aujourd'hui, vous avez quasiment une collection par semaine dans certaines maisons. Ça veut dire qu'il faut toujours donner l'envie de consommer, de consommer, de consommer. Et pour consommer comme ça, il faut consommer pas cher. Des vêtements de mauvaise qualité.
Oui, mais le consommateur se révolte aujourd'hui. Comment?
Alors, le consommateur se révolte, oui et non. Le consommateur qui, effectivement, est sensible aux questions environnementales, parce que quand on est sensible aux questions environnementales, il faut l'être complètement et de façon militante. Sinon, on ne portera plus de rouge à lèvres, on ne portera plus de parfum, parce que notre environnement quotidien est infesté de produits
mais
polluants.
Mais on peut imaginer que la jeune génération va faire bouger les lignes. Je voudrais qu'on donne la parole à une dernière auditrice qui nous appelle, qui veut absolument s'exprimer. Ça serait dommage de ne pas lui donner la parole. Zebounissa nous appelle. Elle est au Rwanda. Bonjour Zebounissa.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes au Rwanda, c'est bien ça? Vous êtes pas très loin de Kigali?
Oui, oui, exactement. Et à 2 heures de Kigali.
D'accord. Et vous êtes couturière de métier, c'est pour ça que vous avez envie d'intervenir?
Oui, oui.
On vous écoute, Zébouli.
J'ai fait beaucoup d'années de couture.
Oui, on vous écoute.
Donc, quand j'ai entendu cette chose, le pantalon qui montre les fesses et tout ça, ça m'a amusée parce que je vois que les Indiennes cachent leurs chevilles avec leurs saris, me montrent leur ventre.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Il y a encore beaucoup de paradoxes, ouais, hein, dans ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas.
Oh,
du...
Oui, et puis, c'est les hindous qui font ça. Nous autres, les musulmanes, nous ne mettons pas de boléro de sari très court. Hein. Nous cachons notre ventre.
Et aujourd'hui, au Rwanda, alors qu'est-ce qui évolue dans ce qu'on vous demande?
Donc, actuellement, il y a des gens qui... Les dames portent surtout des vêtements très collants. Sur très collants et puis des collants avec leur robe courte et ainsi de suite.
Oui, c'est le retour de la mode près du corps depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que sur ces paradoxes, il y aurait beaucoup de choses à dire. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Fleur a posté un message. Fleur est à Franceville. C'est un voisin d'ailleurs, me précise-t-on. La mode n'a pas de limite pour être beau. Ce qui est mode pour l'un est vulgaire pour d'autres. Je déteste les gens qui enroulent leurs manches de chemise. Ah oui, les fameux revers de chemise. Ah non mais chacun perçoit le beau et le moche. Hein, c'est intéressant, non? Non, moi j'ai pas fait de revers, j'ai remonté mes manches.
Ce qui est très intéressant, c'est que on dit très souvent que nous sommes dans une société où le code vestimentaire n'existe pas, ce qui est une aberration. Il suffit d'aller précisément sur les blogs internet et vous avez précisément un blog internet, je me souviens de l'avoir consulté, qui expliquait comment retrousser avec classe ses manches de chemise. Voyez,
ouais. Ouais. Si ce n'est qu'il y a tellement de codes différents que finalement le fameux slogan d'une chaîne de fast-food « Venez comme vous êtes » est aussi très vrai aujourd'hui quand même.
Mais venez comme vous êtes, mais tout dépend, je dirais, qui vous
génial,
allez rencontrer. Oui, mais voilà, mais il faut, comme disait un de nos auditeurs, il a dit une phrase clé, c'est-à-dire qu'on ne s'habille pas uniquement pour soi, on s'habille aussi pour les autres. Ouais. Et ce qui est très difficile quand on porte un vêtement un peu différent, un peu singulier, c'est le regard de l'autre.
Regarde
et tant
l'autre.
Que l'homme vivra en société, il sera obligé de s'habiller et le vêtement restera un code parce que on vit en société, par conséquent on vit aussi à travers le regard de l'autre.
Le regard de l'autre et quand même son petit confort, hein, grâce aux innovations technologiques. En tout cas, merci à vous, c'était passionnant. Chloé Demey et Denis Brunat, à vous signer l'histoire des modes et du vêtement du Moyen-Âge au XXIe siècle, qui est un ouvrage collectif aux édition textuelle. Merci à vous, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, pour votre regard toujours acéré sur le vêtement et ses significations sociologiques du magazine Brune. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur l'orientation professionnelle et le sexe. Métier du social pour les filles, technique pour les garçons. Le choix des métiers a-t-il encore un genre? À demain, les voisins et les voisines.